Bienvenue JPED Barbu, une série de portraits sonores en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux du site des Grands Causses qui suit l'arrivée de 4 jeunes JPAET sur le territoire en lien avec le programme de réintroduction de l'espèce sur le site des Grands Causses et plus globalement à l'échelle européenne. De retour sur la vire des oiseaux pour ce deuxième portrait sonore autour de la réintroduction des JPAET barbus. Nous sommes avec Cynthia Auger que nous avions rencontrée la fois précédente, qui nous avait accompagnée justement et qui nous avait présenté l'arrivée des oiseaux. Salut Cynthia.
Bonjour.
Cynthia, animatrice nature pour la Ligue de protection des oiseaux. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, depuis la dernière fois, sur l'évolution des 4 jeunes JPAET?
Alors depuis la dernière fois, on reçoit des nouvelles quotidiennes par rapport à l'évolution de chacun des oiseaux. Donc Dolomy continue ses expérimentations de vol de plus en plus assurées, il continue à explorer son territoire, il va de plus en plus loin. Et là, les dernières nouvelles, c'est que cette semaine, on a eu l'envol de 2 autres JPAET, donc Fario et Glazine. Donc c'est vraiment tout récent. Et apparemment, le quatrième est encore en train de faire désirer son envol, puisqu'il est toujours posé sur la vire. Il fait de très nombreux battements d'ailes, mais il ne s'est pas encore décidé à sauter le pas.
Et alors, on va aller à la rencontre de 2 surveillants nature, qui sont Florian, qu'on avait aussi rencontré la fois précédente, et Elodie.
Voilà, Florian et Elodie qui sont de surveillance donc ce matin. Elodie qui est toujours en poste plutôt en hauteur pour poursuivre les oiseaux depuis la vire. Et Florian qui est plutôt toujours en vallée. Apparemment, les oiseaux sont assez bien observables ce matin.
Super, bah allez, c'est parti. Alors là, on est arrivé donc juste à côté de la vire et on est avec Elodie.
Bonjour.
Salut. Donc toi, tu es surveillante nature?
C'est ça, surveillante pour les JPAET depuis leur arrivée dans la vire.
On s'était croisés la dernière fois rapidement parce qu'on était revenus pour un petit peu expliquer l'arrivée des oiseaux. Donc toi, tu as suivi l'évolution parce que là, ils se sont quasiment tous envolés.
C'est ça, il en reste encore un dans la vire, mais qui n'attend que ça, j'espère, bientôt.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'évolution des 4 JPAET? A priori, il y en a 2 qui sont observables d'ici.
Oui, là, même les trois qui sont envolés, on peut les voir. Donc, il y en a un qui s'est déjà envolé depuis un petit moment, donc il a des super beaux vols et il maîtrise vraiment. On voit que maintenant, c'est son truc.
C'était Dolomy, c'est ça?
C'est ça, c'est Dolomy qui vole très bien. Là, qui supporte pas que le vautour fauve essaye de prendre sa nourriture, donc essaye de défendre un petit peu son territoire. Alors que Glazine et Fario, c'est un peu leur premier vol, donc c'est un petit peu plus hésitant.
Et Glazine et Fario, c'est les 2 femelles, c'est ça?
C'est les 2 femelles, c'est ça, ouais.
On en voit juste un là, vraiment juste à côté de nous, quoi. Ils sont repérables par des teintures.
C'est ça, avec des plumes décolorées, donc aux ailes et à la queue. Donc chacun a un marquage différent, ce qui permet de les reconnaître dès qu'ils volent ou même posés avec le marquage à la queue, généralement. Mais là, il y en a un qui vole et on voit très bien le marquage avec le soleil qui tape dessus, c'est facile de les reconnaître.
Et alors, la dernière fois qu'on s'était croisés, il y avait eu un petit incident parce que Dolomy était envolé un petit peu plus tôt et il était en bas de la forêt. Comment ça s'est déroulé? Comment il a réussi à s'en sortir?
En fait, on s'est un petit peu inquiété pour rien parce que comme il était précoce, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude qu'il s'envole à cet âge-là. Donc, on avait un petit peu peur que ça se passe mal. Mais finalement, quand les conditions ont été bonnes, il a pris les ascendants, il est remonté en haut de la vallée et il a trouvé la nourriture qu'on avait déposée dans la falaise.
Bien, merci Elodie d'avoir répondu à nos questions. On va te laisser continuer à surveiller.
Merci. Oui, encore un petit peu de surveillance. Mais là, c'est une journée facile puisqu'ils sont tous à vue. Ouais. Donc on ne va pas courir.
Nous, on va aller se diriger vers Florian.
De voir Florian, ouais. Du coup.
Qu'on avait vu donc au portrait sonore précédent, qui nous avait un petit peu expliqué déjà les oiseaux, comment ils étaient arrivés sur le site. Et là, du coup, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue aussi.
Qu'on avait laissé en train, justement, de chercher Dolomy au moment où il était en bas dans la végétation.
Voilà, c'est ça. Bon, alors là, on est arrivé sur un deuxième site d'observation des oiseaux. Et on est avec Florian, qu'on avait rencontré au premier portrait sonore. Salut Florian.
Salut.
Et on est aussi avec Manu. Salut Manu.
Salut.
Alors toi, on t'avait pas vu la fois dernière. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ?
Alors moi, je travaille à la LPO en tant que chargée d'études sur les programmes vautours. Et depuis septembre, je suis en remplacement de Noémie Zeletti sur le programme de réintroduction du gypaète barbu. Donc tout ce qui est organisation, logistique, et puis aussi tout ce qui est gestion des menaces qui pèsent sur les vautours de manière générale. Voilà.
Florian, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Parce que c'est vrai qu'on s'était quitté avec Dolomie qui était dans la forêt, qui n'arrivait pas à remonter.
C'est ça, et du coup il a bien progressé depuis. Là il est en vol avec les vautours fauves et il se débrouille très très bien maintenant tout seul. On le perd de vue à peu près tous les jours et il va naviguer entre le Cos Noir, le Cos Bégon, les gorges de la Dourbie, un peu plus haut dans le Trèvezel aussi. Il navigue pas mal, donc il se débrouille très bien maintenant.
Et alors, c'est quoi ton ressenti par rapport aux deux autres oiseaux qui se sont envolés ? Parce qu'il y en a un, pour le moment, qui n'est toujours pas envolé.
Alors, du coup, il y a Ofris. On disait que c'était le premier qui s'envolerait et tout ça. Et pas du tout, en fait. Il n'est toujours pas envolé.
Oui, c'est vrai qu'on s'était dit ça la dernière fois.
Et par contre, du coup, Eglazine et Fario qui commencent à peine à faire leur premier vol. Donc, c'est encore un peu timide pour l'instant. Mais ça se passe bien, en général.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire là ce que vous êtes en train de surveiller juste devant vous avec vos longues vues ?
Du coup, moi, je suis en train de surveiller les deux femelles, donc Fario et Glazine, qui sont toutes les deux posées sur des quilles, donc nous on appelle ça des quilles, c'est des promontoires rocheux, et qui sont en train d'observer les vautours qui sont en train de leur tourner autour, qui sont venus leur piller leur nourriture. Et après, il y a aussi Dolomie, qui est en vol parmi les vautours. Du coup, c'est difficile à retrouver, mais il est là.
Parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. On voit une bande de vautours juste en haut. Ils sont je sais pas combien.
Oh, il y en a une bonne cinquantaine, presque. Et du coup, ils ont été attirés parce qu'on a effectué le nourrissage des gypaètes ce matin. Et du coup, ils ont trouvé la nourriture et ils en profitent.
Là, les gypaètes, finalement, ils vont pas du tout être embêtés par les vautours. Enfin, je veux dire, la cohabitation, est-ce qu'elle se passe bien ?
Oui, non, en général, les vautours s'en moquent un petit peu des gypaètes. Ça peut arriver que les gypaètes volent un peu après les vautours, mais bon, là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Les femelles sont un peu stressées parce que c'est leur première fois où elles voient autant de vautours, mais sinon, tout va bien.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est des oiseaux qui ne sont pas du tout impactés en termes de chaîne alimentaire parce qu'ils ne se nourrissent pas de la même chose, a priori.
Voilà, en général, non, ils ne se nourrissent pas de la même chose. Au contraire, le gypaète a besoin des vautours fauves pour pouvoir lui se nourrir par la suite parce que donc le vautour fauve va manger toutes les chairs tendres et va laisser du coup les os qui pourront ensuite être utilisés par le gypaète. Mais bon, là, nous, on nourrit les gypaètes avec de l'os, mais il y a quand même un peu de viande parce qu'ils sont encore en phase d'apprentissage, donc ils mangent encore un peu de viande. Et du coup, là, les vautours fauves en profitent et on pille un peu tout ça, quoi.
C'est à quel moment environ qu'ils seront complètement indépendants et qu'ils n'auront plus besoin que vous les nourrissiez ?
Nous, on va poursuivre le dépôt d'os et de déchets de boucherie jusqu'à octobre, à peu près. C'est pas forcément des oiseaux qui, jusqu'en octobre, vont nécessiter de nos dépôts. Mais en tout cas, ils vont prendre de plus en plus d'indépendance. On va espacer de plus en plus les dépôts. Et du coup, à partir d'octobre, on arrête pour qu'ils puissent réellement se débrouiller d'eux-mêmes par la suite, quoi.
Vous commencez à percevoir des automatismes de leur part, des envies de se nourrir par eux-mêmes pour le moment ou pas encore ?
Alors, assez vite, on peut constater effectivement des comportements de... où ils saisissent en fait l'os pour essayer de l'amener en vol, en altitude, et puis tenter le cassage d'os. Là, par exemple, c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver assez vite dans les prochaines semaines, notamment pour, par exemple, Dolomie qui s'est envolé le plus tôt, quoi.
Alors, pour le moment, tout à l'heure, on a réussi à en observer avec Cynthia. Les oiseaux, ils ont pas leur plumage d'adulte, c'est ça ?
Non, là, effectivement, ils ont des plumages de poussins, en fait. Il leur reste encore un peu de duvet. Bon, ils ont quand même des plumes qui sont développées de juvéniles, donc adaptées au vol et à la thermorégulation. Après, en termes de coloris, effectivement, l'oiseau va plus se rapprocher d'un plumage adulte dans sa troisième ou quatrième année et avoir un plumage quasi parfait, peut-être vers la cinquième, sixième année.
Ah oui, donc ça prend du temps, quoi. Parce que pour le moment, quand on l'observe, il est noir, en fait.
Oui, ouais, c'est noir, marron, blanc, beige. Effectivement, il a pas du tout les mêmes teintes qu'un plumage adulte. Après, il s'éclaircit quand même dès la première année. Il y a quelques nuances qui apparaissent, quoi.
Et alors Manu, toi, ton poste, tu disais que c'était aussi donc dans l'anticipation des dérangements des oiseaux. Quelles sont les vraies problématiques en fait pour les vautours ?
Le dérangement, c'est pas forcément ce qui va être la plus grosse problématique, la plus grosse menace. Après, on veille vraiment à ce que les sites restent des sites de quiétude hein, pour l'évolution, notamment dès qu'on relâche des oiseaux, mais de manière générale sur les colonies de vautours fauves, vautours moines. Voilà. Après, les menaces qui vont peser plus sur les oiseaux, c'est tout ce qui est équipement en fait anthropique, donc les lignes électriques par exemple, effectivement l'éolien aussi, et puis on a des problèmes aussi de cas d'empoisonnement ou d'intoxication, des cas de tir, voilà. Donc on essaye de travailler avec les usagers de l'espace sur ces problématiques-là pour amener un peu de sensibilisation, notamment avec Cynthia, mais de manière générale pour faire prendre conscience des enjeux qui pèsent sur ces espèces et éviter au maximum les menaces qui pèsent sur eux.
Là, on va dire que votre rôle là, en tant que surveillant, il prend vraiment toute son importance parce que vous êtes tous les jours dessus.
Oui, là, c'est des périodes un peu charnières pour ces oiseaux-là qui viennent juste d'arriver sur le site puisqu'ils ont été déposés début juin, du coup. Et effectivement, notamment à l'envol, c'est vraiment des moments où ils vont être un peu plus vulnérables, hein, surtout sur ce site où on a quand même un couple d'aigles pas loin, et puis d'autres oiseaux qui peuvent être amenés à venir les embêter un petit peu. Et quand c'est des oiseaux qui sont pas hyper à l'aise en vol, c'est vrai que ça peut poser quelques difficultés, donc on veille à leur bien-être et puis au fait qu'ils soient pas dans des situations un peu délicates qui les amèneraient à être réellement en difficulté. Et que ça se passe mal, quoi.
Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur chacun des trois oiseaux à nous raconter, un petit peu peut-être rigolote ou...
Pas vraiment rigolote, mais ah. Fario, du coup, pour son deuxième jour envolé, s'est fait attaquer par l'aigle, bien comme il faut, et a fini au sol. Et du coup, ça nous a poussé à deux à monter en plein milieu de la pente, en plein après-midi, en plein soleil, pour essayer d'aller le revoir. Et au final, arrivé à son niveau, bah, il s'est envolé comme si de rien n'était. Donc bon, c'était plus de peur que de mal, mais voilà. Il fallait être rassuré, voir que l'oiseau allait bien. Donc on a été rassuré.
Et donc pour le moment, vous les surveillez grâce à différents types de balisages. Vous arrivez à les surveiller facilement, ça fonctionne bien ?
Je pense que ça, Florian pourrait répondre.
Plus ou moins, on va dire. Dolomie, du coup, qui navigue un peu plus, ça arrive plus souvent de le perdre. Après, on a le GPS, du coup, une fois par jour, qui nous indique ces endroits de passage. Mais après, moi, ça m'est arrivé déjà de perdre toute une après-midi où je l'ai cherché avec l'antenne radio et j'arrivais pas à le trouver. Bon, j'ai fini par le trouver en fin d'après-midi, mais bon, c'est voilà, ça nous arrive de les perdre un petit peu, mais bon, en général, on arrive assez vite à les retrouver.
En septembre, on va faire un dernier portrait sonore pour voir un petit peu l'autonomie complète de ces oiseaux. Qu'est-ce que ça va être, vos objectifs, vous, jusqu'à septembre ?
Ça va être de veiller au fait que les quatre oiseaux qui sont pour l'instant présents puissent évoluer correctement, faire en sorte effectivement d'être au fait des interactions négatives potentielles qu'il peut y avoir. Et puis la plupart du temps, les oiseaux qui sont lâchés côté Aveyron sur la vallée du Trévezel ont tendance à basculer côté Jonte. Donc c'est aussi de pouvoir savoir un petit peu quand et comment les surveiller au mieux en basculant nous aussi sur l'autre vallée, quoi.
J'avais une dernière question. Entre les arrivages des oiseaux qui arrivent en même temps, donc qui sont de la même génération, par exemple là, il y a, entre les deux femelles, il y a beaucoup d'interactions. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la suite que ces oiseaux continuent à vivre ensemble ou au bout d'un moment ils vont complètement devenir autonomes et indépendants ?
Alors c'est possible qu'ils évoluent ensemble. L'an dernier, par exemple, c'est vrai que dans leur premier vol, ils avaient tendance à être les uns avec les autres. Après, très vite, effectivement, ils vont avoir des habitudes assez solitaires. Ils vont faire des trajets erratiques sur plusieurs kilomètres et de manière seule. On peut de temps en temps être surpris à se dire, ah bah tiens, cet oiseau-là, il est allé, dans le Cantal, par exemple, et puis deux jours plus tôt, un autre oiseau va faire le même trajet. Donc est-ce qu'il y a une attraction ? On ne sait pas. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à à être relativement solitaires et évoluer quand même chacun de leur côté, quoi.
Mmh. Mais après, voilà, ça dépend du caractère de l'oiseau et
bien sûr.
Ou du profil. Ouais. Merci à vous deux, Manu et Florian. Et puis, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre surveillance.
Merci.
Merci.
Vous venez d'écouter le portrait sonore intitulé « Bienvenue, Jipaète Barbu ». N'hésitez pas à redécouvrir cette émission ainsi que les autres étapes de réintroduction en podcast sur radiolarzac.org.